את שפתיי ברינה,
גם תרם דמנגה דינה,
עירת אדוני למונה,
גם כועז לו גרם מסטרי.
Quand le muséon Arlatan se réinvente hors les murs, ça donne une aventure historique et sonore de plusieurs années. Le musée ethnographique arlésien, fermé depuis l'automne 2009 pour permettre sa rénovation, a investi en 2008 le territoire des Bouches-du-Rhône pour un voyage au cœur de l'histoire provençale. Sous l'impulsion créative de Guylaine Renaud, 10 objets ont été sortis des collections du musée pour être interrogés et recréés. Chaque objet représente une étape du voyage, pendant laquelle Guylaine et son complice Thibaut Verdron collaborent avec un artiste différent pour proposer une création. Un spectacle un peu historique, mais surtout poétique et musical. Entre Guylaine Renaud, femme troubadour de transmission et d'oralité, et le muséon Arlatan, lieu de mémoire de la société provençale qui affirme sa modernité, la rencontre était inévitable. Une rencontre qui a déjà donné naissance à un préambule et 3 étapes, la 4e est à venir et l'arrivée est prévue en 2014. Guylaine Renaud, bonjour.
Bonjour.
Où en est ce voyage ?
Nous préparons à nous arrêter pour la 4e étape de ce voyage qui a commencé en juin 2008 et qui a commencé avec un préambule qui a été la vitrine judéo-contadine et qui a eu lieu au Muséon Arlatan même.
Il fut dans une ville, un monde enfermé comme dans une vitrine. On y naissait. On y vivait, on y mourait, les portes ouvertes le jour et la nuit fermées. Cette ville s'appelait Carpentras, Cavaillon, l'île sur la Sorgue, Avignon, Arbac-Kélilote, les 4 carrières, les 4 Messilas, les 4 ghettos, les 4 juiveries. Où la communauté locale s'entassa durant 3 siècles jusqu'à ce que la Révolution accorde à ses habitants le droit de citoyen français.
C'est vraiment un travail impressionniste que je fais. Alors bien sûr, je me nourris d'éléments scientifiques, ethnographiques, historiques, mais je dirais qu'après, c'est mon cœur qui parle, c'est mon imagination, c'est mes sensations, c'est vraiment un dialogue entre l'objet et moi. Quelquefois, ce dialogue s'établit bien avant de rentrer vraiment dans le sujet scientifique. Vraiment, c'était effectivement le coup de cœur, ce qu'il pouvait évoquer pour moi, peut-être aussi nourri d'éléments de ce qu'il pouvait en tout cas représenter par rapport à la culture locale. Par exemple, quand je me suis promenée pour faire ce choix dans les couloirs et les salles du musée, quand j'ai rencontré la vitrine judéo-contadine, par exemple, qui elle renfermait des dizaines et des dizaines d'objets représentant cette culture, alors soit les rites judéo-contadins religieux, soit effectivement des objets du quotidien, je me suis dit que cette vitrine s'était mise sur mon chemin et qu'elle était incontournable et que je devais absolument traiter et rentrer en contact avec elle. Et voilà. C'est comment les objets m'ont parlé en fait.
Attention,
c'est le mercredi décembre.
La
pendant
guerre, mais
Pourim,
va
le bateleur entre dans la carrière et déclame le serment des
Juifs. Despiel ou commencement de Wallar, Nautrey avait tout toujours régné, si en avant les malarines, les monarques et les princes, et des Nautrey cantiraient les rées et les famous potentés.
Après le préambule, nous avons fait la première étape. Et la première étape, bien, ça a été le vélo de Jeanne Calment. Alors on a choisi effectivement cet objet en première étape parce qu'il était effectivement un peu symbolique de ce que représente la bicyclette et de ce qu'elle a pu représenter d'ailleurs au début du siècle. Hein, un petit moyen de locomotion très efficace qui nous permet d'aller acheter le pain à côté de la maison, mais aussi de faire le tour du monde.
Vous avez compris que Jeanne adore la bicyclette. Rien d'étonnant pour cette femme dont le père disait « Chez nous, le garçon, c'est la fille. » C'est pas faux. Car je vous pose la question maintenant. Combien sont-elles, les femmes, à faire du vélo et en posséder un à Arles en 1900 ?
Pour la première étape du voyage, le vélo de Jeanne Calment, sorti en 1906 des usines Peugeot, a appelé deux artistes à ses côtés. Mais Antoine Chao, réalisateur radio, et Frédéric Nefcheirlian, poète et musicien, ont prêté leurs idées et leurs compétences à Guylaine Renaud le temps d'une semaine de résidence. Le top départ du voyage des 10 avait lieu en novembre 2008 à Arles. Retour sur cette collaboration avec Frédéric Nefcheirlian.
Celle qui réussira à maîtriser une bicyclette réussira à maîtriser sa vie. Une femme, un vélo. Le tour d'une vie en 122 cases.
Guylaine m'a un jour contacté en me disant « Voilà, j'ai un projet, j'aimerais beaucoup que tu le fasses avec moi. C'est autour du vélo de Jeanne Calment, je t'en parlerai. » C'était complètement inattendu dans mon parcours. Et comme mon parcours est fait de choses inattendues, eh bien pourquoi pas essayer une rencontre avec Guylaine, que j'avais déjà croisée à plusieurs reprises sur d'autres projets. Et comme j'aime l'aventure, j'ai grimpé sur le vélo, quoi. Elle m'a chalé, comme on dit à Marseille. Ce qui me plaisait dans ce spectacle, c'est que Guylaine nous a laissé la possibilité d'être un écho et pas d'être toujours dans le sujet, à être très explicatif. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était d'inventer Jeanne Calment.
L'actualité politique.
Et peut-être qu'en la rêvant, on avait plus de chances de la saisir.
L'arrivée au pouvoir de Lénine vont bouleverser la situation internationale. La révolution russe va faire naître des espoirs au sein du mouvement ouvrier dans le monde entier.
Je me souviens de la vanille.
En France,
des huîtres, du citron.
Du citron.
Des coupes de vin blanc.
Le 4 quarts.
Ce passage-là, c'est très simple. J'ai pris mon livre d'histoire. J'ai pris tous les événements les plus importants du XXe siècle. Je les ai notés à gauche. J'ai pris toutes les paroles de Jeanne Calment, je les ai notées à droite.
Et
j'ai tout mélangé.
Matin et soir, purée.
Ça n'a pas de goût.
C'est fade, matin et soir. Bah.
Je vis mécaniquement.
Je me souviens des arènes.
Elle est spartaine.
Je disais, j'aimais danser, ou j'aimais aller voir, ou j'aimais pas la corrida, ou j'aimais la corrida, je ne sais plus. Mais de confronter ça, son quotidien, ses obsessions quotidiennes, qui étaient très, finalement, comme chacun d'entre nous, parfois très, très limitées, stupides, enfin, tous ces genres de trucs. Enfin, voilà, nos petits soucis quotidiens, là, de les renvoyer à tout à coup à ce qui s'est passé, quoi. Pour les choses importantes qui s'est passé pour l'humanité. C'est juste quelqu'un qui a traversé le siècle, quoi, mais qui a eu la folie de vivre 127 ans. Et donc, je me suis imaginé, de façon bête, Jeanne Calment, sur son vélo, en train d'être à la Révolution russe, en train d'être à New York pour je ne sais trop quoi, en train d'être à Paris pour ça, en train d'être sur la Lune avec... en train d'être au premier concert des Beatles.
Je n'aime pas la grosse musique.
J'aime Mozart.
La première fois que j'ai eu le droit de voter,
c'était en 1945, j'avais 70 ans.
Il y avait des longues robes.
Guylaine avait prévu une trame et un concept, la roue qui tourne, le temps qui passe. Et elle avait écrit une sorte de squelette de ce que pourrait être le spectacle dans lequel elle nous laisserait intervenir, qu'elle nous laisserait aussi manipuler, transformer à notre guise et en fonction de nos réactions, quoi, on va dire, par rapport à ce sujet, par rapport à ça. Donc, j'ai écouté les textes qu'elle avait écrits, j'ai vu un peu tout ça, Antoine aussi, et très spontanément et très rapidement, on a proposé à Guylaine, mais écoute Guylaine, écoute-moi, voilà, il y a ce texte-là, regarde, j'ai une musique, hein, le Bloomer du Kentucky, en 3 secondes j'ai composé la chanson et je lui ai chanté, je voulais un truc un peu à la Gainsbourg, truc machin, genre, enfin voilà, un truc un peu...
Les Bloomers du Kentucky.
Kitsch, quoi, tu vois. Les Bloomers du Kentucky, c'est un truc un peu comme ça, là. Donc j'ai composé tout en direct, en quelques jours, on a essayé d'autres trucs, elle avait une idée, moi j'ai essayé de trouver un riff de guitare... Elle avait des choses très précises qu'elle nous a indiquées, qu'elle souhaitait garder, ce qui était important pour elle. Et puis après, tout l'espace qu'elle nous laissait. Elle était merveilleuse pour ça, c'est-à-dire qu'elle nous a vraiment laissé la possibilité de nous exprimer et d'être, j'allais dire, d'être nous-mêmes, quoi.
Du Kentucky, cache une flasque à whisky.
regarde la route
en face,
parce que sous son bloomer vert, elle aurait un...
Ce projet de création combine deux écritures, deux paroles, celle d'un invité et la mienne. Voilà. Je m'empare de l'objet, je rentre en dialogue avec lui, nous nous disons plein de choses, et puis un jour, voilà, un spectacle né, une écriture que je partage avec l'artiste que j'invite.
Les bloomers du Kentucky, les bloomers du Kentucky, les bloomers. Hey, que la décibelle du Kansas, Braise et Marie bien en place.
Un des objets qui est une affiche du festival de Martigues avec une Antillaise habillée en arlésienne. C'est un objet qui était important pour vous?
Ah oui, ça pour moi c'était très très important, mais je crois que ça l'était vraiment pour tout le monde. Alors c'est un objet qu'on va traiter dans les mois à venir. Il n'a pas encore d'ailleurs trouvé d'artiste. Il n'a pas trouvé, ou l'artiste n'a pas appelé l'objet. En tout cas, je laisse venir. Bon, c'est une affiche qui a fait l'objet d'une polémique énorme à l'époque, donc elle date des années 90. Elle illustre effectivement le festival de folklore de Martigues. Pour nous, c'est la symbolique de l'époque et de l'ethnographie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Qu'est-ce que c'est que revêtir un costume, quel qu'il soit, un costume formel ou un costume intérieur ou un costume même mental de l'identité culturelle. Voilà. Alors mettre effectivement volontairement en opposition, j'imagine en tout cas pour l'artiste qui a fait ce choix, de mettre en opposition une personne noire et un costume d'arlésienne qui est très codifié depuis le 19e siècle, normalisé. Voilà, le costume d'arlésienne correspond à quelque chose de très très formaté depuis une centaine d'années, un peu plus. C'est sûr que c'est un pied de nez, mais surtout, je pense, en tout cas pour nous, au-delà du pied de nez, mais c'est surtout une belle occasion de réfléchir à l'identité culturelle. Et je pense qu'on en fera quelque chose de très humain, parce qu'au final, ce projet parle des hommes de cette terre et des hommes tout simplement.
La prochaine étape du voyage des 10 aura lieu le 12 juillet dans le cadre du festival Les Suds à Arles, autour des béatillos, des boîtes vitrées confectionnées par les nonnes dans les Carmels de Provence. L'invité est Beniat Achari et l'humeur sera au mysticisme. Le Muséon Arlatan rouvrira ses portes en 2014. Retrouvez d'ici là sa programmation hors les murs sur le site muséonarlatan.fr. Il fêtera l'arrivée du Voyage des 10 par l'édition d'un florilège retraçant les différentes étapes.